RMC les grandes gueules.
Ce que je veux, c'est que vous alliez le faire gagner.
Le monde de Macron.
Vive la République, vive la France.
Dans le monde de Macron, on a l'un des garants du grand débat national, Pascal Perrineau, qui s'inquiète de l'omniprésence de l'État et du président de la République durant ces 3 mois.
La communication gouvernementale et présidentielle s'est prolongée tout au long du débat et le Collège des garants a fait savoir que cela pouvait avoir un impact, celui d'introduire un doute. Donc, au nom de la neutralité, le Collège des garants a rappelé qu'il fallait bien distinguer ce qui relevait de la communication gouvernementale d'un côté et de l'autre côté du processus de consultation citoyenne qui est le processus du grand débat national.
Ainsi parle le sage Pascal Perrineau.
Oui, ce que dit Perrineau, c'est que peut-être qu'au départ, Emmanuel Macron a eu raison d'aller comme ça participer à des réunions pour lancer le grand débat. Le problème, c'est qu'il a continué à le faire et qu'il veut continuer à le faire, nous dit-on. Et puis, on a entendu tous ces ministres très féconds dans des propositions autour de la fiscalité, Darmanin, Bruno Le Maire et les autres. Et donc, à un moment donné, on ne sait plus à quoi sert ce grand débat. L'idée, quand même, au départ, c'était d'intéresser les citoyens au débat et que les citoyens entre eux débattent, et pas seulement d'ailleurs les gilets jaunes. Si effectivement ça se résume à une communication gouvernementale et à des ballons d'essai qu'on envoie chaque semaine sur un coup les niches fiscales, faut-il oui ou non les raboter, après faut-il taxer davantage le patrimoine immobilier, ça veut dire que il y a tromperie sur la marchandise, et donc Pascal Perrineau, qui est un homme modéré mais qui fait son boulot, dit attention.
Modéré et lent. Parce que à 2 jours de la clôture du grand débat, dire au gouvernement ce serait bien que vous ne participiez pas, c'est un peu tard. C'est quel dommage qu'il ne l'ait pas dit dès le départ. C'est-à-dire, non mais c'est sincèrement.
Au moins au milieu,
mais pas à la fin. Non mais c'est, par contre l'analyse est bonne. Je crois qu'on est nombreux à avoir eu ce sentiment. C'est un petit peu les débats à la Jean-Michel Blanquer, quoi. C'est des débats, mais c'est très cadré, et c'est quand même très orienté. Il faut bien répondre aux questions. Et quand on répond mal à la question, quand on pose la mauvaise question, eh bien il y a un membre du gouvernement qui vient expliquer tout ce qu'on n'a pas compris. Donc ça a pu donner cette gêne. Après, pour moi, ça reste quand même une réussite. Quand j'entends parler de 10 000 débats sur le territoire, ce n'est pas rien. On approche les 5 000 restitutions. Donc il y a quand même eu une certaine ferveur, un certain succès. On dépasse le million de contributions. Voilà, c'est pas non plus un fiasco complet. Mais sur ce point-là, je trouve que c'est plutôt bien vu. Ouais.
Fatima.
Alors.
T'as eu le même sentiment?
À quoi sert ce rappel 3 jours avant la fin? Parce que généralement, quand on fait un rappel, c'est un garant. Donc normalement, c'est pour garantir le bon fonctionnement. On est d'accord jusque-là. Donc on aurait quand même. Là ça finit dans 3 jours. Donc si c'est.
Alors pas complètement, si c'est parce qu'après il y aura les conférences citoyennes avec les citoyens tirés au sort.
Et si on en trouve?
Alors.
S'ils ont envie de participer, voilà.
J'ai envie de parler. Donc pardon. C'est pas pour rectifier. Alors peut-être pour rectifier la suite. Oui, enfin il n'apprend ce qu'il dit. Ça a été dit par des journalistes et même par les gens.
Donc,
depuis
par les grandes gueules.
On s'est même inquiété. Ben oui, ici même, je vous ai dit le problème, c'est qu'on a l'impression qu'Emmanuel Macron est en train de faire sa campagne pour les élections européennes. Donc bon,
finalement, le garant n'a pas garanti l'indépendance du débat,
voilà,
finalement.
On peut faire plein de jeux de mots.
Perrineau Pipo, finalement. Monsieur Thibault Langsade, on les a pas entendus.
Perrineau trop tard.
Il parle, ouais. Il est lent.
Je peux comprendre ce qu'il exprime. Vous avez peut-être un peu perturbé le débat. Néanmoins, qu'est-ce qu'on aurait dit si le gouvernement s'était pas impliqué dans le débat?
Rien.
Rien. J'en suis pas certain. Il fallait lancer.
Mais il y a une juste mesure.
Et puis beaucoup
ne pas
de
s'impliquer et c'est pas omniprésent.
Ça. C'est qui s'est impliqué? Omniprésent, on va revenir sur le point d'être omniprésent. Mais il s'est impliqué, mais aussi les forces politiques se sont pas impliquées. Je veux dire, c'est qu'on n'a pas vu les autres partis politiques s'accaparer le grand débat. Et donc, le gouvernement a fait ce qu'il estimait être nécessaire de faire, c'est de faire parler les Français au travers de beaucoup de contributions, 1 200 000 contributions, des débats qui ont été organisés de façon nos politiciens et nos partis politiques traditionnels s'en sont pas occupés. Bon, donc il a été présent. Tant mieux. Oui, mais ça retombe dans une dimension politique. Après, j'ai envie de dire. Alors là, je vais me faire. Vous allez réagir, mais l'omniprésence, elle est aussi due aux médias qui ont participé à ces retransmissions. Personne
avec succès.
Il
n'y
avait pas d'obligation.
Reconnaître que Macron sur BFM TV, ça marchait.
Donc il fallait quoi? Il fallait que les médias disent non. Les interventions du président de la République, on les filme pas. Et il aurait continué ses interventions tout autant.
Ouais,
c'est pas parce qu'il y avait BFM.
fait.
Non, mais il pouvait très bien en faire.
Que
terminer dans un temps de parole.
Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que les télévisions étaient là que le président en a profité pour parler. Je pense qu'il aurait fait les mêmes débats. Il aurait fait les mêmes débats.
C'est une question de dosage, Thibault.
Oui, mais c'est pas la responsabilité
de 6 heures
Emmanuel Macron arrive en disant la responsabilité du président de la République. L'indépendance des journalistes, et je te regarde droit dans les yeux, a été dit, il vous a pas convoqué, il vous
non,
a pas semé.
Non, mais attends,
il a compris que ça marchait.
Thibault. Comment ça se passe? Macron le fait la première fois. Personne ne pense que ça va fonctionner. Macron, pendant des heures, qui chatche, on se dit, alors qu'il y a quand même un rejet du président. On s'aperçoit que ça marche. Et lui aussi, il voit les chiffres d'audience.
Il voit aussi les chiffres d'audience. Le président de la République en disant,
il voit aussi les chiffres d'audience. Il continue.
Il fallait qu'il arrête, parce que sinon, vous auriez continué.
Mais personne n'est dit qu'il fait. Arrête non, simplement qu'on a donné l'impression qu'il lui était en campagne, alors que le grand débat c'était pas relancer Emmanuel Macron, c'était permettre de sortir de la crise des gilets jaunes.
Probablement il y a eu beaucoup d'expositions et ça a donné ce sentiment et je partage ce point-là. Néanmoins, il fallait qu'il le fasse. Néanmoins, les partis politiques traditionnels se sont pas emparés du sujet alors que tous les Français ont contribué d'une façon ou d'une autre. La nature ayant horreur du vide, vous auriez dû vous en mettre dans le débat.
Il y a un côté bas, c'est-à-dire le fait que alors un coup c'est Emmanuel Macron qui débarque sans prévenir, puis après c'est Édouard Philippe, donc à chaque réunion il y avait la surprise qui va être l'invité surprise. Et toi, ça me laisse un autre sentiment, ça donne l'impression que les garants n'étaient
pas
totalement...
Mais qui filme, s'il vient pas, on filme plus, toi.
Et je suis désolé.
Bon, alors c'est un peu facile de dire ça.
Juste pour finir, c'est un argument, un dernier argument, ça donne aussi l'impression, cette arrivée très tardive des garants pour venir se plaindre à la fin d'un dysfonctionnement, ça donne aussi l'impression que les garants n'étaient pas si libres que ça de leurs remarques et qui n'ont peut-être pas osé dire. Je suis désolé, moi je trouve que venir le dire à deux jours de la fin que ça aurait été bien que l'exécutif ne s'en mêle pas, ça donne l'impression que le garant avait un peu la truc.
Je trouve que la critique est facile.
Oui, mais il arrive en retard.
C'est un exercice compliqué qui a été l'organisation.
C'est pas Perrineau, c'est Père Poulidor. Il arrive deuxième, il arrive trop tard, je suis désolé. Il aurait dû le dire. Autant, alors toi, je défendais la première intervention d'Emmanuel Macron. La première fois, bon, il arrive en disant je vais pas trop parler, 3 heures sur 6. Mais on comprenait la logique, quoi. Et comme il a dit, c'était compliqué. Mais par contre, après, ce côté surprise, vous allez avoir quelqu'un du gouvernement qui va débarquer, attention, c'était quand même dérangeant.
Fatima. Alors deux choses, Sylvain, il n'a pas dit ne s'en mêle pas, enfin, attention, parce que s'il avait dit ça serait mieux qu'il ne s'en mêle pas, ça serait injuste et ça serait faux, puisque depuis le départ on demande où est le président, pourquoi il ne va pas à la rencontre des Français, et ça serait complètement, ça serait lui faire des injonctions paradoxales de lui dire viens nous voir, et quand il vient nous voir, ne viens plus nous voir. Donc la question n'est pas là, on est là non pas sur la question est-ce qu'il devait venir ou pas, on est d'accord, on est tous d'accord pour dire que c'est très bien qu'il soit venu à la rencontre des Français. Là où intervient le garant, c'est sur la question du dosage. On est bien d'accord sur ça. Sinon c'est malhonnête.
Sinon c'est malhonnête, c'est simplement pour le défendre, on va dire on lui demande tout et son contraire. Là on touche un peu sur le dosage, et sur le moment,
parce qu'il y a les européennes pas loin. Il y a cette question là qui est très importante, et donc il y a cette question du temps parole, sachant que dans une campagne présidentielle, dans une campagne européenne, la question ça fait beaucoup. On sait que les médias aussi font l'élection d'une certaine manière, puisque on peut voter pour ceux qu'on entend. On a entendu ça sur les petits partis, par exemple, pendant la présidentielle.
Fatima, je voudrais comprendre une chose. Il a fait un devoir d'explication. On lui reproche d'en avoir trop fait maintenant. C'est un peu, si je veux résumer. Mais qui est responsable? C'est lui qui aurait dû s'auto-censurer et considérer que son temps de parole devait être limité pour laisser un espace.
C'est pour ça qu'il y avait des garants
en face.
Il y avait des garants pour lui dire.
Mais il y avait personne. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que il n'y avait personne. Ce que je veux dire, c'est que les partis politiques, et c'est important de comprendre ça, le Rassemblement National, le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts, se sont pas engouffrés dans cette voie-là.
Bon, déjà, on attend les conclusions vendredi, puisque c'est bouclé vendredi, ce grand débat, puis on aura les chiffres définitifs, voir ce qu'il en ressort, surtout comment ça se traduit concrètement. Une étude intéressante réalisée par OpinionWay sur les Français et leur travail. Pour sortir du chômage, un Français sur deux a déjà accepté un emploi qui ne lui correspondait pas pour sortir du chômage.
55% des personnes précisément en recherche d'emploi ont accepté un travail qui ne correspondait pas vraiment. Alors là, c'est dans le pas vraiment, il faudrait quand même, c'est pas très précis. Mais bon, en tout cas, c'est l'association Solidarité Nouvelle face au chômage qui a commandé ce sondage et qui veut ainsi démontrer que les gens sont prêts à tout pour sortir du chômage. Bon, est-ce que ça interpelle ce chiffre, le pas vraiment? Est-ce qu'il faut mieux essayer d'avoir un boulot, même si c'est pas exactement ce qu'on recherche, plutôt que de rester dans une situation d'inactivité?
Bah, d'abord, le pas vraiment, il faut essayer de le quantifier. Parce que, oui. Est-ce que c'est le salaire? Est-ce que c'est la localisation? Est-ce que c'est le contenu du job? Est-ce que c'est le positionnement dans l'entreprise? Donc, le pas vraiment, il faut le quantifier. Après, je trouve ça paradoxalement plutôt positif. Ça veut dire que les Français, contrairement à ce que l'on peut dire, se mettent dans une dynamique de recherche d'emploi, font des efforts parce qu'il y a un moment, il y a un impératif, et donc c'est plutôt une bonne chose. Après, travaillons sur l'adéquation entre les demandes d'emploi et les profils des collaborateurs, travaillons davantage sur de la formation et notamment sur ces emplois non pourvus. Donc voilà, on est sur un problème de fond qui est l'adéquation de l'assurance chômage avec les demandes des entreprises et avec les profils des.
C'est le problème le plus important en France, c'est ça qui explique le chômage structurel en France de masse.
Après,
c'est parce que les gens ne sont pas formés aux emplois.
Je pense que ça, on commence à maintenant à bien le voir, c'est qu'on aura en France un chômage structurel qui probablement sera autour des 7-8%.
On n'y est pas encore. Là, on est.
On n'y est pas encore, mais on n'y est pas très loin. Et donc,
c'est beaucoup 7-8%
chômage
structurel.
Beaucoup, par rapport à l'Allemagne, par rapport à l'Angleterre, par rapport à d'autres pays. Et donc, on voit aujourd'hui que on a besoin de mieux former les demandeurs d'emploi de façon criante. On a une fois de plus de 500 000 ou 600 000 selon la façon dont on emploie non pourvu, qu'il va falloir que l'on travaille auquel on s'y attale. Et il y a tout le processus de la formation professionnelle et de l'apprentissage, notamment sur le chômage des jeunes, parce qu'il y a également un taux de chômage des jeunes qui est de 25%, qu'il faut reprendre à zéro. Voilà la problématique qu'elle a donnée. Et on est malgré tout dans une logique du travail qui est contraint, qui n'est pas si libre que ça et qui n'est pas si flexible que ça et qui ne permet pas aujourd'hui de pouvoir descendre autour des 7-8% de chômage qui va devenir structurel.
Oui, c'est normal que ce soit dur, hein, les derniers pourcentages. C'est comme quand on veut gagner le dernier centième au 100 mètres. C'est-à-dire que plus on va s'approcher du noyau dur du chômage structurel, plus ça va être difficile. Quand on regarde l'enquête, Thibault, c'est exactement ce que tu disais. C'est-à-dire que les gens jouent sur la rémunération. Il y en a 42% qui ont accepté de baisser leur salaire. Après, c'est la nature du travail, 40% qui acceptent de changer. Et puis après, effectivement, ça va être les conditions de travail et puis la géographie aussi. On dit toujours, faut que les gens soient mobiles. Alors j'adore cette expression, comme si les gens vivaient pas en couple, comme s'ils n'avaient pas des enfants, voire une propriété. Donc comme si on pouvait changer de région comme ça sur un claquement de doigts. En tout cas, cette étude, elle conforte une précédente qu'on avait déjà eue, qui montrait. Alors d'abord, faut rappeler qu'il y a la moitié des chômeurs en France qui ne sont pas indemnisés. Et sur les gens indemnisés, finalement, le taux de fraude est quand même relativement faible. C'est très marginal. Alors, on a toujours l'impression, on connaît tous quelqu'un qui a abusé, mais quand on regarde, il y a un affaire. À chaque fois qu'il y a une enquête sérieuse, approfondie, sur des cohortes importantes, et la part de fraude, parce que c'est quand même
Il n'y a pas de vrai sujet sur la fraude, hein. C'est pas quelque chose qui
mais
fait
tant mieux,
polémique, c'est quelque chose qui est mis en avant dans la négociation de l'assurance chômage avec les partenaires sociaux. La fraude, elle est estimée à peu près je l'ai plus en tête, mais elle est très, 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 très marginale.
La fraude sur les gens indemnisés, ça doit être 8%.
L'incitation à un retour à un emploi rapide. Et puis, le second point qui est la permission, qui grève l'assurance chômage.
Dans un instant, grand oral des GG, restez avec nous. Nous serons avec Anne Ratier. Elle raconte, Anne Ratier, qu'en 1987, elle a donné la mort à son fils de 3 ans qui était tétraplégique, lourdement handicapé. 32 ans après, ce qui est un meurtre. Hein. Elle explique ce geste dans ce livre. Un témoignage bouleversant. Anne Ratier sera notre grande gueule du jour avec Fatima, avec Thibault et avec Sylvain.
RMC, 9h30. Les grandes gueules.